Mais je pense souvent à vous pendant lorsque je prépare le message parce que je me dis, vous êtes déplacé, vous avez pris votre auto, vous avez marché. Puis je veux vous aider des fois à retenir ce qui a été enseigné. Fait qu'on va faire une petite chanson ensemble ce matin, OK? On va faire même une compétition, les gars contre les filles. Mesdames, on va commencer par vous. C'est très simple. Ce que vous avez à dire, mesdames, c'est « Tu vas me bénir avant de partir ». Ça va comme ça. « Tu vas me bénir avant de partir ». Tu vas me bénir avant de partir. C'est bon, les filles. On va essayer avec les gars maintenant. Les gars, vous avez vu les filles s'asseoir tranquillement, donc vous avez l'occasion de vous venger. On y va. Tu vas me bénir avant de partir. Tu vas me bénir avant de partir. Jacob a dit à l'ange. Vous êtes fait avoir, les gars. C'est toujours « Tu vas me bénir avant de partir ». Ah ah! On va reprendre. Maintenant, tous ensemble. Plus de compétition. Tout le monde ensemble, OK? Votre seule phrase que vous avez à dire, c'est « Tu vas me bénir avant de partir ». Tout le temps. C'est prêt? Vous êtes prêts? Tu vas me bénir avant de partir. Tu vas me bénir avant de partir. Jacob a dit à l'ange. Bravo! Je chantais cette chanson-là quand j'étais plus jeune. Justement, le but, c'était, nous, on a, pour les enfants en bas, on a des enseignements adaptés à eux, et souvent, c'est des chansons qu'ils apprennent comme ça, pour retenir l'information, puis ça aide, on apprend par des chansons, ça aide beaucoup. Et l'histoire qu'on va regarder ce matin, le texte qu'on va regarder, c'est l'histoire de Jacob, justement, qui était confronté à une situation où il a dit à un ange, il a dit à une représentation de Dieu, il a dit, tu vas me bénir avant de partir. On va regarder le texte dans quelques instants. Mais vous savez, moi, le concept de bénédiction, hein, nous, on, pour les chrétiens, le concept de bénédiction, c'est qu'on croit que tout ce qu'on a, tout ce qu'on possède, tout ce qui est un cadeau de Dieu, tout ce qu'on a dans la vie, c'est des bénédictions. Donc, on est reconnaissant pour les bénédictions. Mais des fois, le concept de bénédiction d'une personne à l'autre, c'est différent. Il y a quelques Noëls de cela, je me retrouvais dans la famille de mon épouse, et c'est une famille qui sont des Québécois, qui ont pas nécessairement des pratiquants qui allaient à l'église catholique. Et le cousin à mon épouse m'a demandé de me dire, il m'a appelé dans le garage, tu sais, puis plusieurs personnes qui fêtaient en haut, puis qui avaient bu 2-3 verres d'alcool. Puis lui me met à part, il sait que je suis pasteur, il me dit, Emmanuel, j'aimerais que tu fasses la bénédiction pour nous. Là, je suis comme, qu'est-ce que ça veut dire pour lui la bénédiction? Est-ce qu'il veut que j'apporte un enseignement? Est-ce qu'il veut que je prie pour chaque personne? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que ça veut dire pour lui? T'sais? Fait que je dis, OK, mais je vais faire la bénédiction. Donc, avant le repas, t'sais, on ne parle jamais de religion, comme plusieurs familles. On ne parle jamais de religion, mais lui me demande, je suis un peu mal à l'aise, un peu stressé, de faire la bénédiction. Donc, je prie, je fais une prière bien normale. Je dis aux gens, fermez les yeux, on va prier, t'sais, la bénédiction. Je prie. Fait que je prie, ça se passe bien. Oh, après ça, tout le monde ouvre les yeux, ça se passe bien, tout le monde est encore là, c'est bon. Mais moi, je suis parti avec cette question-là, puis toute la soirée, je me demande, est-ce que j'ai répondu à sa demande? Est-ce que j'ai fait une bonne bénédiction? Est-ce qu'ils vont être vraiment bénis? J'ai passé au travers, c'est correct, mais on doit l'avouer, même pour nous, les chrétiens qui venons à l'église régulièrement, ou pour vous qui êtes en visite ce matin, le concept de bénédiction, de dire, ouais, mais est-ce que Dieu bénit vraiment? Qu'est-ce qui est une bénédiction? Qu'est-ce qui n'est pas une bénédiction? Est-ce que des fois, je peux mériter ou ne pas mériter des bénédictions? Je vous donne des exemples de bénédictions ce matin. La vie est une bénédiction. La santé est une bénédiction. Le matériel, oui, c'est des bénédictions. La nourriture, il y en a, vous priez avant de manger, ou il y en a, vous ne le faites pas, peut-être que vous devriez le faire. Mais la nourriture, c'est une bénédiction. Les amitiés, c'est des bénédictions. Moi, vous savez, j'enseignais ce matin, puis j'ai un ami à moi qui fait la même chose que moi, puis on s'encourage, parce que préparer tout ça, c'est pas toujours facile, faire la recherche, puis oh, et on s'encourageait mutuellement, puis il est une bénédiction pour moi. Vivre l'amitié, c'est une bénédiction. Ton couple, si tu es en couple, c'est une bénédiction. Tes enfants, même s'ils sont difficiles des fois, ils sont une bénédiction. La Bible dit que les enfants sont une bénédiction, même, je parlais du couple, la Bible dit que celui qui a trouvé une femme ou qui a trouvé un époux, c'est un cadeau de Dieu. Donc, c'est une bénédiction. Tes célibataires, tes amitiés sont une bénédiction, mais ta liberté est une bénédiction. Il y a des choses que tu peux faire en tant que célibataire que moi, je ne peux pas faire. Tu peux dire, bye, je prends l'avion demain, je m'en vais. C'est une bénédiction. C'est vrai. Le travail, c'est une bénédiction. On l'oublie. Plusieurs personnes dans le monde n'ont pas l'opportunité d'avoir un travail. Dans le spirituel, il y a des bénédictions. Lorsque tu pries pour une personne, tu pries pour une guérison physique, comme Josiane le disait dans la louange ce matin, tu pries pour une guérison, un miracle, c'est une bénédiction lorsque Dieu répond. Puis, il y a aussi des bénédictions qui viennent avec la sagesse. Lorsque tu appliques les principes bibliques, lorsque tu les appliques, bien, il y a des bénédictions qui viennent avec. Moi, j'ai pas toujours été chrétien, pratiquant comme je le suis, même si je viens d'une famille chrétienne. Mais lorsque je rencontre des amis à moi, ils me disaient, Emmanuel, tu étais béni, tu as une femme, tu as des enfants, ça se voit que vous allez être ensemble pour la vie. Mais c'est des bénédictions que je suis allé chercher aussi, en toute honnêteté, parce que j'ai décidé d'appliquer les Écritures, la Bible, les enseignements qu'on apprend à l'Église, j'ai décidé de les mettre en pratique, ce qui m'a amené certaines bénédictions, oui. L'expérience de la vie, c'est des bénédictions aussi des fois. Parce qu'on fait des erreurs, on apprend, on peut aider d'autres par la suite. Et je vous l'ai dit, on a un peu de la misère des fois avec la notion de bénédiction, surtout avec les bénédictions matérielles. Parce qu'on a eu dans nos églises, certaines églises enseignent seulement un évangile de prospérité, enseignent seulement les bénédictions en lien avec l'argent. Mais il y a des églises, justement, qui, des fois, font l'opposé, disent « L'argent, c'est presque mal, il ne faut pas parler d'argent. » Mais en fait, l'argent, ça existe, c'est Dieu qui a donné l'argent. Puis je vous comprends, des fois, ça peut être dur à comprendre, parce que juste dans les Écritures, Jésus, par exemple, à un moment donné, rencontre un jeune homme qui est riche. La Bible dit que ce jeune homme-là était riche, il avait beaucoup de moyens. Et il va voir Jésus, il dit « Jésus, ben, moi, je veux te suivre, je veux être un de tes disciples, qu'est-ce que je fais? » Puis Jésus lui dit « Vends tout ce que tu as et suis-moi. » Le jeune homme riche dit, « Jésus, je vais passer mon tour, salut, bye, bye. » Jésus est attristé, est touché. Puis aussi, il y a des histoires comme l'histoire de Jacob qu'on va regarder. Jacob était un homme d'affaires prospère qui faisait de l'argent. Puis de génération en génération, son père Isaac, son grand-père Abraham étaient des hommes qui étaient bénis financièrement. Mais on peut aussi être entre les deux en tant que chrétien. Vous n'êtes pas obligé d'être hyper riche comme Jacob l'a été, ou nécessairement de vivre une vie de pauvreté. Mais on peut aujourd'hui, si on prend des contemporains, dans le cas de Mère Teresa, elle n'est plus là parmi nous aujourd'hui, mais même aujourd'hui, il y a des gens qui sont aux deux aspects, où Dieu les bénit, et c'est correct. Vous avez le droit, là. Mère Teresa, plusieurs, vous connaissez Mère Teresa, était une femme qui s'est donnée pour aider les pauvres, pour être là pour les pauvres. Mère Teresa, son but premier dans la vie, ce n'était pas nécessairement de faire de l'argent, mais elle était là pour être une bénédiction pour les gens, les lépreux, ceux qui étaient en grande difficulté, qui avaient beaucoup qui vivaient dans la pauvreté. Et il y a un homme qui existe encore aujourd'hui, un chef d'entreprise, Dan Cathy, qui est propriétaire de restaurant Chick-fil-A aux États-Unis. Et lui, c'est un chrétien, même que le dimanche, leurs restaurants sont fermés parce qu'ils veulent encourager leurs employés à aller à l'église. Et lui, je l'écoutais dernièrement dans une entrevue, il disait, « Moi, je crois que même l'entreprise peut exister pour être une bénédiction, pour aider des gens à sortir de la pauvreté, à être un bon témoignage. » Donc, je pense que des fois, on a cette conception de, il y a juste une manière de vivre les bénédictions, de vivre le christianisme. Donc, je sais que je vous ai donné fin en parlant d'une restauration rapide, mais je veux aussi vous dire que Dieu veut vous bénir, que Dieu est pour les bénédictions, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient relationnelles. Dieu, son mandat dans la vie, c'est de nous bénir. Il veut qu'on soit béni, il veut qu'on soit bien. Ça ne veut pas dire que si tu deviens chrétien ou si tu es chrétien, que tout va toujours bien aller. Non! Mais Dieu, cependant, son mandat, c'est nous bénir. Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec ça? Yes! Je suis content que vous êtes avec moi ce matin. Genèse 32, ça va apparaître à l'écran, on regarde l'histoire de Jacob ensemble. Jacob resta seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'à l'aube. Quand l'adversaire vit qu'il n'arrivait pas à vaincre Jacob, il lui porta un coup à l'articulation de la hanche qui se démit pendant qu'il luttait avec lui. Oui, messieurs, il lui a donné un coup à l'endroit où ce que vous pensez. Puis il dit à Jacob, « Laisse-moi partir, car le jour se lève. » Mais Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas aller avant que tu ne m'aies béni. » « Quel est ton nom ?» demanda l'homme. « Jacob, répondit-il. « Désormais, reprit l'autre, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël. Il lutte avec Dieu, ce qui veut dire il lutte avec Dieu, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as vaincu. » Jacob l'interrogea. « S'il te plaît, fais-moi connaître ton nom. « Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» lui répondit l'ange, et il le bénit à ce moment-là. Jacob nomma ce lieu Péniel, la face de Dieu. Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. Quand il eut passé le gué de Péniel, le soleil se leva. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les Israélites ne mangent pas le muscle de la cuisse fixé à l'articulation de la hanche, car c'est là que Dieu avait frappé Jacob. Résumer le passage rapidement, Jacob se retrouve seul, alors qu'il est, dans ce, il est seul à un endroit, et il, alors qu'il est dans ce lieu-là, il est là et il rencontre un ange, une représentation de Dieu. Donc, il lui dit, « Bénis-moi ». Il y a un combat, littéralement un combat physique, mais le mandat de Jacob, c'est dit, alors que Jacob réalise que c'est une image divine, une personnalité divine, Jacob lui dit, « Bénis-moi, tu dois me bénir avant de partir », comme on l'a chanté ce matin. Il dit, « Bénis-moi », il se bat avec lui, il est vraiment tenace, et l'ange lui donne un coup, lui laisse une marque, et finalement, il finit par le bénir. Donc, c'est ça un peu l'histoire, Jacob finit par être béni. Mais qui est Jacob? Regardons l'histoire de Jacob ce matin. Jacob, c'est le fils d'Isaac. Jacob est le fils d'Isaac. Et non seulement il est le fils d'Isaac, mais il y avait un frère jumeau aussi. Et l'histoire dit que, la Bible dit qu'à sa naissance, dans le ventre de leur mère, le premier qui est sorti en premier, c'est Ésaü. Donc Jacob, alors qu'il sort, il tient le pied, il tient la cheville de son frère Ésaü, alors qu'il sort du ventre de sa mère. Puis c'était une représentation pour dire à quel point, moi je vais toujours te tenir par la cheville, mon frère. Je vais être là derrière toi, je vais te causer du trouble. Et on le voit plus tard dans l'histoire, alors que son père est proche de mourir, Isaac est près de la mort, et Ésaü est prêt à recevoir son droit d'aînesse. C'est un peu la bénédiction pour dire, la bénédiction de son père pour lui dire, tu vas être béni mon fils, je te bénis. Ça venait avec des bénédictions spirituelles aussi, mais aussi financières. Donc, avec sa maman, pas une très bonne décision, il manigance un peu que finalement, c'est Jacob qui finit par avoir le droit d'aînesse. Ésaü est en furie. Déteste son frère, ça mêle littéralement un mur entre leur relation. Son frère se sauve, Jacob se sauve, va habiter dans une autre contrée, et pendant 14 ans, il se fait arnaquer maintenant à son tour, Jacob, qui était lui-même celui qui arnaquait les autres. Pendant 14 ans, il travaille pour son beau-père. Il travaille pour son beau-père, il se fait avoir. Au début, il avait marié une femme, mais finalement, il pensait que c'était l'autre qui allait marier. Fait que pendant 14 ans, il se marie, il travaille pour son beau-père. Dieu, malgré ça, lui promet une terre promise. Dieu lui dit, tu vas avoir une terre promise, tu vas être béni tant financièrement que spirituellement. C'était un symbole. Mais comme je vous l'ai dit, c'était un homme d'affaires. Mais c'était un homme d'affaires, Jacob, qui était un peu égoïste, qui pensait à lui, qui en voulait un peu plus dans ses poches, comme on en voit aujourd'hui en 2022. Puis on va voir justement trois aspects de ce texte-là, comment ça peut s'appliquer à notre vie, parce que Jacob n'est pas le seul égoïste qui existe sur la planète. Donc, il n'est pas le seul non plus qui avait des moyens. Donc, l'histoire de Jacob s'applique très bien à nos vies aujourd'hui, en tout cas à la mienne. Tout d'abord, il y a des bénédictions qui se cachent dans la consécration. Qu'est-ce que nous dit le texte au verset 25? Jacob reste seul. Le texte est intentionnel pour dire ça, parce que Jacob était avec des centaines de personnes qui se promenaient avec lui. C'était un chef d'entreprise, il y avait ses animaux, il y avait sa famille, il y avait ses deux femmes, il y avait ses enfants. Donc plusieurs personnes étaient avec lui, il y avait un gros clan qui se promenait avec lui. Mais le texte prend le temps de nous dire qu'à ce moment-là, Jacob est seul. Pour avoir cette rencontre divine, Jacob devait se retrouver seul. Vous savez, moi dans la vie, lorsque j'ai une idée, un projet, moi je suis un créatif, hein, j'ai plein d'idées, plein de projets, puis même avec l'Église, là, j'ai les départements que j'ai, je me dis, on pourrait faire telle chose. Mais souvent, lorsque j'ai un projet, je ne le dis à personne. Ça commence dans la solitude. Pourquoi? Parce que souvent, lorsque tu vas dire un projet à quelqu'un, les gens vont l'influencer. Les gens vont dire, ah, tu devrais faire ça, ou tu ne devrais pas faire ça, est-ce que tu es capable de faire ça, est-ce que c'est une bonne idée de faire ça? Souvent, je ne le dis même pas à mon épouse. Puis même pour venir travailler à l'église ici, Mosaïque, tu sais, j'habitais à Montréal, je vais déménager à Québec, je ne l'ai pas dit à beaucoup de personnes, je l'ai dit à Dieu. J'ai été dans la solitude, fermé ma porte dans ma chambre. Et c'est là que Dieu a commencé à mettre des désirs dans mon cœur, puis c'est là que Dieu a commencé à me parler. Pas nécessairement un ange qui est venu dans ma chambre, non, mais je crois que lorsque tu suis Dieu, il y a comme une nouvelle nature qui fait où ce que tu peux communiquer avec Dieu dans la prière, puis qui va te donner une paix face à une décision ou dans quelle direction tu dois aller. Je t'encourage à développer cette habitude d'aller dans la solitude. Il y a des bénédictions qui se cachent là. Spirituelles, financières, des directions pour un emploi, pour ta famille, pour ton couple, pour ton célibat. Mais je t'encourage à considérer de prendre, d'être intentionnel à aller dans des moments de solitude. Il y a des bénédictions qui se cachent dans la présence de Dieu. Et deuxièmement, il y a des bénédictions qui se cachent derrière la détermination. Le texte nous dit qu'il s'est battu avec lui jusqu'au lever du soleil. Hey, c'est toute une bagarre, là, jusqu'au lever du soleil. Et ça symbolise littéralement que la saison dans laquelle Jacob se trouve, il se retrouve dans une saison qui n'est pas nécessairement facile, parce que son frère Ésaü est à sa poursuite, veut sa mort. Mais en même temps, Dieu lui a promis, tu vas avoir une terre promise, Jacob, je vais te promettre plein de choses, ça va bien aller, ton entreprise va être prospère, mais aussi spirituellement, je vais prendre soin de toi et de ta famille. Mais en même temps, il y a son frère qui veut le tuer. Puis en même temps, il y a son beau-père qui l'a trahi. C'est un symbole de dire, oui, mais des fois, tu te trouves dans une saison de zone grise où, ouais, mais Seigneur, tu m'as promis telle chose, mais pourquoi ces choses-là m'arrivent? Tu m'as promis telle chose, mais pourquoi je souffre? Tu m'as promis telle chose, mais pourquoi il y a des gens qui m'ont déçu? Mais la détermination, c'est ce qui va te donner les bénédictions. Il s'est battu toute la nuit. Ça dit beaucoup sur la détermination de Jacob. Puis l'ange, la représentation de Dieu est inspiré et comme « waouh » est en admiration face à cette détermination. Puis je sais que dans notre société, on nous dit « fais ton minimum, fais ce que tu peux, l'important c'est de participer. » Mais des fois, Dieu, là, il admire ta foi lorsque tu n'abandonnes pas. Il admire ton courage lorsque tu pries. Il admire ta détermination lorsque tu ne lâches pas puis tu continues de prier, puis que tu t'agrippes puis tu dis, « Seigneur, je ne comprends pas tout, je ne vois pas tout, mais je veux accepter de te faire confiance, puis je veux continuer. » Dieu admire ta détermination lorsque tu continues de prier et que tu lui fais confiance. Tes enfants, demain, ils vont avoir de la détermination pour avoir des bonbons et des bonbons et des bonbons. Tu peux apprendre de leur détermination. Et Jésus lui-même nous parle de cette détermination-là lorsqu'il raconte dans Luc 18 l'histoire de cette femme qui était veuve. C'était une femme qui était veuve, donc son mari était décédé. Et à l'époque, dans les Écritures, Jésus était intentionnel lorsqu'il raconte cette histoire. Parce que les veuves, non seulement les femmes à l'époque étaient au plus bas de la société, n'avaient aucun droit. Donc, si tu étais une femme dans la société, tu devais dépendre de ton mari. Mais en plus, si ton mari est mort, si ton mari n'est plus là, imagine dans quelle situation tu te retrouves. Donc, quand Jésus raconte cette histoire, il dit que c'est l'histoire d'une veuve qui, elle, est allée voir un juge parce qu'elle vivait une situation d'injustice. Et cette veuve-là est allée voir le juge. Elle est allée voir le juge, puis elle plaide, puis elle dit, « Monsieur le juge, aidez-moi. » Puis elle revient, puis elle revient, et elle revient. Puis le juge, qui n'est pas un juge chrétien ou un juge comme les autres, qui est un homme, un juge qui a son métier, qui a tout, il dit, « Oh, je suis tanné d'entendre cette veuve-là. Je suis tanné de voir qu'elle revient à chaque fois me voir. Je suis tanné. Bien, je vais lui donner gain de cause. » Mais Jésus est intentionnel lorsqu'il raconte cette histoire, parce que lui, ce qu'il dit, il dit, « Moi, je ne suis pas ce juge-là. Moi, je suis ton père. Moi, lorsque tu pries, je veux répondre. Moi, je veux te bénir. Moi, je veux prendre soin de toi. » Puis Jésus, il n'est pas notre... Oui, il est le juge. Il est un bon juge, mais il est aussi notre avocat. Il combat pour nous. Fait que ce que tu vis, tes défis, il veut t'accompagner là-dedans. C'est encourageant, n'est-ce pas, la mosaïque? Tu vis un défi, lâche pas. Tu pries pour quelque chose en particulier, ne lâche pas. Dieu admire ta détermination. Continue, tu pries pour un emploi, pour un miracle, pour ta santé, pour quoi que ce soit. Ne lâche pas, je vais t'encourager ce matin, ne lâche pas. Puis je sais, des fois Dieu ne répond pas comme on le voudrait. Des fois ça prend du temps. Mais moi j'aime cette image de la roche, de ce rocher-là. De ce gros rocher où c'est Dieu qui avait demandé à un homme de pousser un rocher. Ben, pousse le rocher. L'homme, il a répondu. Il a dit, « OK, Seigneur, je vais pousser le rocher. » Et il pousse, puis il pousse, puis il pousse pendant des mois, même des années. Il pousse, il pousse, il pousse. Mais le rocher ne se déplace pas. Il dit, « Dieu, tu m'as abandonné. Tu es censé être le Dieu de la bénédiction. Qu'est-ce que tu fais? » Mais Dieu lui dit, « Je sais. Je n'ai pas déplacé la roche, puis j'aurais pu t'aider à le déplacer. » Mais regarde tes jambes maintenant. Comment tu t'es musclé. Regarde tes bras. Regarde ta détermination. Regarde ton courage. Regarde maintenant comment tu n'as pas lâché puis tu as développé du courage. Donc, c'est ça dans le domaine spirituel. C'est, oui, des fois, Dieu ne va pas répondre, mais regarde ta foi. Et moi, il y a tellement de réponses, il y a tellement de prières que Dieu n'a pas répondu dans ma vie. Mais ça m'a tellement challengé à me dire, oui, mais j'ai quand même dépendu de Dieu, puis c'est pas grave, puis Dieu est fidèle. Moi, j'ai perdu un ami du cancer, puis on priait tellement pour lui, puis il était un homme de foi, puis il est décédé, oui. Mais je me rappelle, parce je me rappelle de sa foi, je me rappelle de sa détermination, même s'il est décédé, puis ça m'a tellement aidé à me dire, oui, Dieu répond pas toujours comme je voudrais, mais Dieu reste bon, puis je veux continuer de croire. Et troisièmement, les bénédictions nous amènent dans une autre dimension. Moi, j'y crois. Que lorsque Dieu répond à quelque chose, lorsque Dieu répond à une bénédiction, tout d'un coup, là, tu dis, non, c'est Dieu qui a répondu, j'y crois. Puis plusieurs d'entre vous, plusieurs d'entre vous ce matin, vous êtes dans la salle, puis vous savez, quelqu'un vous dirait, ouais, Dieu n'existait pas, toi, tu pourrais lui dire pendant toute la journée, non, voici ce que Dieu a fait dans ma vie, voici ce que Dieu a fait, voici tel miracle que Dieu a fait. Ça nous amène dans une autre dimension. Qu'est-ce que nous dit le texte au verset 29? Ça dit, désormais, reprit l'autre, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël. Ésaü, le frère de Jacob, son frère jumeau, peu de temps après, le chapitre suivant, on voit leur rencontre. Et puis là, Jacob prépare toutes ses affaires, avait mis de l'argent de côté. Ils ont dit, OK, là, je vais rencontrer mon frère, il va vouloir me tuer. Je vais essayer de l'acheter avec de l'argent. Fait qu'on va tout s'arranger là, OK, parfait. OK, mon frère s'en vient. La rencontre, il voit de loin, puis lui, il se dit, mon frère va vouloir me tuer. Mais il est prêt, il prépare tout. Puis il arrive pour le remettre à son frère. Qu'est-ce qu'il lui dit, Ésaü? Non, mon frère, je te pardonne. Puis il dit, oui, mais je sais que tu me pardonnes, mais tiens, regarde ce que j'ai pour toi, ça vaut beaucoup, ça vaut cher. Ésaü lui dit, non, merci. Mon père m'a béni. Je suis béni. Dieu m'a tellement donné. Puis oui, tu m'as trahi, oui, tu as volé mon droit d'aînesse, mais Dieu a pris soin de moi. Waouh! Il est dans une autre dimension, Ésaü. Son frère est capable d'avoir du recul parce qu'il reconnaît tout ce qu'il y a. Il reconnaît ce que Dieu a fait dans sa vie. Puis avec nous, lorsqu'on lit ce texte, on a perdu un peu avec le français, avec la traduction, on a perdu un peu qu'est-ce que l'auteur voulait dire. Et il y a une tournure poétique que l'auteur voulait utiliser. Ça voulait littéralement dire « Jacob, l'homme, est passé par Jacob, le lieu, pour que Jacob, l'homme, rencontre Dieu, il devait passer par Jacob le lieu et il devait passer par le match. L'homme ne peut pas atteindre la bénédiction sans combat. L'homme, la personne, la femme, l'homme, on ne peut pas atteindre la bénédiction sans combat. Puis Jacob aurait pu essayer encore une fois de manipuler ou quoi que ce soit, encore une fois d'essayer d'utiliser les beaux mots, ses stratèges d'homme d'affaires, mais non, il devait passer par le combat. Il devait passer par ce moment difficile, se battre avec Dieu littéralement, de se faire donner un bon coup pour réaliser qu'il a besoin de se soumettre à Dieu. Et qu'est-ce que l'ange fait? Il lui demande de confesser, il dit, c'est quoi ton nom? C'est Jacob. Et vous savez ce que ça veut dire Jacob? Traître. Il devait confesser qu'il était un traître, il devait admettre qui il était pour passer dans une autre dimension. Pour passer par la terre promise, pour avoir la bénédiction suprême, il devait reconnaître qui il était. Bibliquement, là, lorsque tu avais un nouveau nom, ça symbolisait la transformation. Ça symbolisait que tu devais passer par un changement. Jacob, le trompeur ambitieux, s'appelle maintenant Israël, celui qui persévère avec Dieu. Celui qui a attrapé la cheville de son frère se fait maintenant attraper par le cœur. Il s'est fait attraper par Dieu qui lui dit « Arrête maintenant. Si tu veux être béni, tu dois changer. Si tu veux passer dans une autre dimension, tu dois accepter le combat. » Oh, puis moi, je me rappelle, les moments de ma conversion, c'était tellement pas facile. Puis non, lorsqu'on devient chrétien, je vous le dis, puis je tiens à le répéter, c'est pas hyper facile, tout va bien. Moi, là, il y avait des dépendances qui étaient dans ma vie, il y avait des relations que je devais arrêter, il y avait mes amis qui riaient de moi, il y avait ma famille qui riait de moi. C'était pas facile de voir toutes mes amis s'en aller faire la fête, faire leur vie, vivre leur vie librement. Mais moi, je vivais ma vie de chrétien. Aujourd'hui, je suis épanoui, je suis bien. Mais il y avait un moment de combat. Puis je veux te le dire, tu vis quelque chose présentement, tu vis un défi, tu dis, man, moi je veux que ma vie change, mais il faut que tu passes par ce moment où tu dis, mais Dieu, tu dois me briser. Dieu, je veux admettre, je veux confesser qui je suis, puis que je dois changer, j'ai besoin de toi. Ça ne sera pas facile, mais ça vaut tellement la peine. En résumé, par tes propres forces, tu ne peux rien faire. C'est en lui que tu vas savourer les vraies bénédictions. Puis c'est ironique. Parce que l'interaction avec l'ange se fait juste avant qu'il entre à la terre promise. Juste avant, juste à la porte, là, littéralement. C'est juste là, c'est juste avant de passer dans la prochaine dimension, il faut que tu rencontres ton Créateur. Il faut que tu rencontres celui qui t'a créé. Jacob reçoit un nouveau nom, mais non seulement il reçoit un nouveau nom, c'est que tout ce qui lui appartient maintenant a une nouvelle signification. Toutes les bénédictions ont une nouvelle signification. Tu vas à l'église depuis des années, ou tu as grandi dans l'église, est-ce que tu es capable de reconnaître que tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes, c'est Dieu qui te l'a donné? Peut-être que tu as besoin d'avoir un renouvellement ce matin, de le réaliser que tout ce que tu possèdes, relationnel, matériel, tout ce que tu possèdes, c'est Dieu qui te l'a donné. Mais ce matin, peut-être que tu ne le sais pas, mais il y a un créateur, il y a un auteur derrière ta vie. Tu ne te considères pas comme chrétien, comme chrétienne. C'est une des premières fois que tu vas peut-être tu viens dans une église comme la nôtre. Mais est-ce que tu reconnais que la bénédiction, que derrière la bénédiction qui est la vie, de respirer, il y a un créateur? Est-ce que tu le reconnais? Puis Jésus, je l'ai mis au PowerPoint, je peux que vous puissiez le retenir, c'est tellement important. Jésus est la plus grande des bénédictions. Et Jésus a accepté de passer par un combat pour nous. Il est allé à la croix, il est mort, il a souffert pour que nous, on puisse avoir la vie. Et moi, je te donne l'opportunité ce matin de le reconnaître, puis ça pourrait tellement changer ta vie. Oui, il n'y aura pas juste des bénédictions, mais en même temps, c'est la plus grande des bénédictions parce qu'on sait qu'on va se retrouver dans sa présence dans l'éternité un jour. C'est le plus grand des cadeaux. Qu'est-ce que le texte nous dit qu'on a lu ce matin? C'est que lui, une fois qu'il a vu ça, Jacob a dit, « J'ai pu voir la face de Dieu. » Mais nous, en tant que chrétiens, le privilège c'est qu'on a aujourd'hui parce qu'on est après Jésus, on est post-Jésus, c'est que non seulement on a accès à la face de Dieu, mais c'est que Dieu habite en nous par son Saint-Esprit. Wow! Même Jacob n'avait pas ce privilège-là, n'avait pas cette chance-là. Je vais inviter les musiciens à s'approcher. Ce matin, on va faire quelque chose de particulier. Moi, je crois à l'importance de la prière. C'est tellement essentiel. Puis la prière, c'est une des plus grandes bénédictions. Juste avoir la chance de parler à Dieu, c'est un privilège, c'est une chance. Je t'invite à considérer, à commencer à prier, à prendre un temps seul. 5 minutes. Une marche. À juste parler avec Dieu, dans tes mots à toi. Tu vas voir les bénédictions qui vont en découler, je suis confiant. Mais je t'invite à même venir prier avec nous avant la réunion, de 10h à 10h25 environ. On prie ensemble. Mais juste considérer avoir la prière dans ta vie. Je te dis, ça pourrait juste te faire du bien. Tu vas voir les bénédictions qui vont émaner. Puis honnêtement, moi, je n'ai pas prié toute ma vie, mais de devenir un homme de prière, puis je le dis ça en toute humilité, ça a complètement changé ma vie. Mais je veux te donner cette opportunité ce matin de dire, je veux donner cette chance à Dieu. Je ne comprends pas tout, mais je veux donner cette chance à Dieu. Je veux donner cette chance à ce Jésus, qui est la plus grande des bénédictions. Viens nous voir à la zone de bienvenue. Après, on va prier avec toi, on va en parler. Il y a une équipe qui est là pour te rencontrer. Mais en tant qu'Église mosaïque, j'aimerais qu'on prie ce matin. Puis je vais inviter des membres de notre... des membres de Mosaïque, mais des leaders aussi, à venir au micro, prier, qu'on puisse avoir un moment où on va prier ensemble. Vous pouvez rester à votre place, mais on va avoir une attitude de prière. Il y a Marjorie qui va venir prier pour les familles, pour les couples, pour nos adolescents, pour nos enfants, pour les célibataires. On a besoin de la bénédiction de Dieu sur nos familles. Il y a un micro juste là, Marjorie va prendre le micro dans quelques instants. On a Annie qui va venir prier pour les nouveaux qui se joignent à Mosaïque. Il y a plusieurs qui se joignent pour nous, à nous, à tous les dimanches, puis on veut bien les accueillir, puis on veut qu'ils restent à Mosaïque, puis qu'ils grandissent dans leur foi. Annie et son mari, Martin, sont responsables de l'accueil des nouveaux. Martin va venir prier pour le CA et l'équipe pastorale. On a besoin de prière, on a besoin de la bénédiction de Dieu, on a besoin que Dieu nous aide à continuer dans cette société où il n'y a plus personne, il n'y a plus grand monde qui croit encore en Dieu, mais nous, on veut croire que Dieu va agir, puis on veut prier pour notre conseil d'administration et l'équipe pastorale, que Dieu nous aide. Il y a Javier et Yadira qui vont venir prier. Javier est sur le conseil d'administration, lui aussi, avec Annie. Et Yadira et Javier animent un groupe élément, Moz Hispano. Il y a d'ailleurs, Pasteur Christian en a parlé tantôt, mais joins-toi à un groupe élément, ça vaut la peine. Ils vont venir prier pour les nouveaux arrivants. Ils vont venir prier pour les nouveaux arrivants. Il y a plusieurs nouveaux arrivants qui se joignent à notre église. On veut bien les accueillir. Puis la Bible dit d'accueillir celui qui vient d'ailleurs. C'est pas toujours facile. On a un groupe, bien sûr, on a Moz Hispano, mais j'ai assisté à un groupe de Brésiliens qui se rencontrent ici à Mosaïque. Puis j'entendais leurs témoignages qui racontaient à quel point c'est pas toujours facile. Ils quittent leur famille, puis ils arrivent ici dans un nouveau pays. C'est pas facile. On peut pas toujours comprendre ce qu'ils vivent. On a aussi mon ami Jean Tanneau qui anime un groupe aussi. Jean Tanneau, il n'anime pas un groupe spécialement pour les nouveaux arrivants, mais si Jean Tanneau est comme moi, un petit peu bronzé comme moi, et tu peux assister à son groupe, et il y a plusieurs nouveaux arrivants qui se joignent à son groupe aussi, mais on a un groupe pour toi, c'est un nouvel arrivant, on a un groupe pour toi, joins-toi à un groupe élément. Javier et Adira vont prier en espagnol. J'aurais demandé de prier en espagnol, ça va nous bénir justement d'entendre prier dans leur langue, ça nous bénit. Donc je vais inviter Marjorie à prier d'abord, ensuite les autres vont suivre. Qu'on ait une attitude de prière, Mosaïque, qu'on puisse prier ensemble pour voir Dieu agir, pour la bénédiction de Dieu.